Bonjour et bienvenue, 15h TU, 17h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, l'armée israélienne annonce avoir lancé de nouvelles opérations terrestres au Liban. Son offensive contre le Hezbollah s'est élargie au sud-ouest du pays. Les États-Unis, en particulier la côte sud, se préparent à l'arrivée prochaine de l'ouragan Milton. Le président Biden se voit contraint de renoncer au voyage qu'il devait faire en Allemagne et en Angola. En Martinique, le mouvement de colère contre la vie chère ne retombe pas. À nouveau, des heurts entre manifestants et police avec des blessés et des arrestations à suivre dès le début du journal. Le gouvernement Barnier, visé par une première motion de censure, elle est défendue actuellement à l'Assemblée par la gauche avec très peu de chances d'être adoptée. Le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, ayant prévenu qu'il ne la voterait pas. Le mouvement de colère contre la vie chère, déclenché début septembre, se poursuit en Martinique. La semaine a commencé avec de nouveaux heurts sur cette île française des Caraïbes. Des policiers et des manifestants ont été blessés lors d'affrontements sur l'un des principaux axes routiers bloqués par des protestataires. Le point avec Pierre-Olivier.
Les affrontements ont eu lieu sur le carrefour Mao, dans la commune du Lamentin, entre Fort-de-France et l'aéroport. Une cinquantaine de manifestants et sept poids lourds garés en travers des chaussées bloquaient la circulation. La CRS 8, spécialisée dans la gestion des manifestations violentes, est alors intervenue sous les jets de pierres et de bouteilles avant de riposter à son tour avec du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Cinq personnes ont été interpellées et 11 policiers blessés lors des affrontements. Le leader du mouvement de lutte contre la vie chère, Rodrigue Petitot, que les Martiniquais surnomment le R, a quant à lui été blessé à la cuisse en tentant d'enjamber un grillage. Ces derniers événements sont aussi révélateurs des tensions qui secouent l'île depuis plus d'un mois. Le mouvement contre la vie chère exige un alignement des prix des produits alimentaires sur ceux de l'Hexagone. En Martinique, ils sont en moyenne 40% plus chers, alors que le taux de chômage, lui, dépasse les 11%.
Quatre tables rondes ont été organisées par les autorités françaises en Martinique depuis le début de la crise, sans résultat satisfaisant pour les protestataires. Une cinquième qui devait se tenir hier a été repoussée sine die. La menace Milton se précise au Mexique et aux États-Unis, classée en catégorie 4 sur une échelle qui en compte 5. L'ouragan devait gagner en force en s'approchant de la péninsule mexicaine du Yucatan. Il est aussi attendu en Floride où plus d'un million d'habitants ont reçu l'ordre de partir. La région se relève à peine du passage de l'ouragan Helene il y a moins de 2 semaines. Conséquence de cette menace Milton, la Maison-Blanche annonce le report du voyage que le président Joe Biden devait effectuer dans les prochains jours en Allemagne et en Angola. Au Proche-Orient, le Hezbollah a revendiqué des tirs de roquettes sur des sites militaires israéliens, ainsi que sur la ville de Haïfa, dans le nord de l'État hébreu. Israël déclare qu'environ 85 projectiles ont été tirés. Au Liban, l'armée israélienne annonce avoir lancé de nouvelles opérations terrestres. Son offensive contre le Hezbollah s'est élargie au sud-ouest du Liban. Elle a aussi frappé dans la nuit dernière la banlieue sud de Beyrouth et annoncé avoir tué un chef du Hezbollah. Au Liban, les bombardements israéliens poussent toujours plus de familles syriennes à rentrer dans leur pays. Dans la région autonome du nord-est syrien, les autorités kurdes font face tant bien que mal à ces retours. Reportage de Lucas Lazo, notre correspondant à Erbil.
CIPAN organise la prise en charge des familles syriennes pour le Croissant Rouge kurde. Réfugiées dans leur propre pays, elles sont particulièrement vulnérables.
Le voyage du Liban vers le nord-est syrien est trop long et ces réfugiés sont pour la plupart des enfants, des femmes enceintes ou des personnes âgées. Leur situation est délicate lorsqu'ils arrivent dans notre zone.
Plus de 17 000 réfugiés sont à ce jour de retour dans le nord-est syrien. Certains n'ont pourtant nulle part où aller.
Nous avons comptabilisé une quarantaine de familles qui viennent de Serekanié, mais pour le moment, elles ne peuvent pas rentrer chez elles, alors nous devons les placer dans des camps.
Retour impossible à Serekanié contrôlé par la Turquie, alors ces familles rejoignent les camps déjà surpeuplés par des années de guerre.
Nous rencontrons déjà de nombreuses difficultés dans ces camps. Si le nombre de réfugiés qui rentrent de Syrie augmente, c'est certain, la situation sera délicate. Il faudra leur offrir un abri, ils auront besoin d'assistance médicale, de nourriture. Tout va dépendre du nombre de personnes qui vont arriver.
Le nord-est syrien est isolé du reste du monde. Pour faire face, le Croissant Rouge mobilise la solidarité de ses habitants.
Nous lançons une campagne de collecte de dons pour offrir assistance à toutes les personnes qui arriveront ces prochains jours.
D'ici là, le Croissant Rouge se prépare, fait l'inventaire des places disponibles dans les camps pour ces familles syriennes sans solution. À Erbil, Lucas Lazo, RFI.
En Inde, l'opposition remporte les élections au Cachemire, des élections locales qui étaient très attendues. C'était les premières en 10 ans dans cette région largement contrôlée par le pouvoir central depuis l'élection de Narendra Modi. Les partis d'opposition sortent vainqueurs, ce qui devrait encourager les revendications d'autonomie de la population du Cachemire. Dans le dossier des surtaxes, la Chine met en place ses mesures de rétorsion. Les autorités chinoises ont ouvert la voie aujourd'hui à des surtaxes considérables sur les spiritueux venus d'Europe, dont le fameux cognac français. C'est leur réponse aux 27 États membres de l'Union européenne qui ont décrété la semaine dernière des surtaxes aux importations de véhicules électriques chinois. Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazé.
Depuis l'annonce européenne début juillet de droits de douane provisoires sur les véhicules électriques chinois, les importateurs doivent déposer en douane une caution égale au montant de la surtaxe prévue par l'UE. Ces cautions seront ponctionnées de manière rétroactive si les droits entrent effectivement en vigueur. La Chine avait immédiatement planifié des mesures de rétorsion en ouvrant des enquêtes sur les cognacs, le porc et les laitages. L'annonce chinoise de ce mardi impose des mesures miroirs, une caution à déposer en douane à l'importation de cognac à hauteur de 35% environ, un niveau comparable aux surtaxes européennes sur les voitures. On perçoit chez les Européens une dose de pessimisme quant à la volonté chinoise de négocier. Certains s'attendent ici à de prochaines annonces similaires sur le porc et les laitages. Officiellement, la Commission espère toujours résoudre avec Pékin le dumping commercial qui résulte des subventions accordées aux constructeurs chinois de véhicules électriques. Mais l'annonce chinoise de ce mardi augure plutôt d'une guerre commerciale avec l'entrée en vigueur pour 5 ans des surtaxes européennes le 31 octobre. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
À Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, les professionnels de la filière cognac appellent à mettre fin à l'escalade. Fin de citation. En France, le gouvernement Barnier, visé par une première motion de censure déposée par la gauche pour le non-respect du résultat des élections législatives. Cette motion est débattue actuellement à l'Assemblée, avec peu de chances d'être adoptée. Le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, ayant prévenu qu'il ne la voterait pas. En ce qui concerne la demande de destitution d'Emmanuel Macron, la procédure est enterrée. La proposition engagée à l'Assemblée par la France insoumise ne sera pas examinée. Une décision prise ce matin par la conférence des présidents met fin à la procédure. Je vous laisse maintenant imaginer une surface de 6 400 000 hectares, l'équivalent de 9 millions de terrains de football. C'est la surface de forêt perdue l'an dernier dans le monde, selon la Forest Declaration Assessment, composée d'une trentaine d'ONG. Ce niveau dépasse largement celui qui aurait permis de rester sur la bonne trajectoire pour atteindre l'objectif zéro déforestation à l'horizon 2030. Pauline Glaise.
La trajectoire de réduction de la déforestation prévoyait qu'il n'y ait pas plus de 4 400 000 hectares déboisés en 2023. La surface a donc dépassé de 45% les objectifs. Sur les 10 pays ayant la plus grande surface de déforestation, seul un, le Paraguay, est dans les clous. Tous les autres, RDC et Cameroun compris, ont largement dépassé l'objectif. Pour autant, sans être sur la bonne trajectoire, certains pays ont fait des progrès. C'est le cas du Brésil, ce n'est pas le cas loin de là de la Bolivie. L'augmentation de la déforestation dans le pays sud-américain alarme les auteurs de l'étude. Plus 351% entre 2015 et 2023. En cause, la crise économique et les réformes favorisant l'extension des terres agricoles. Autre point d'inquiétude dans ce rapport, le rebond de la déforestation en Indonésie, un phénomène exacerbé par la demande pour des produits à visée écologique, comme le nickel, très demandé dans le cadre de la transition énergétique. Les forêts indonésiennes souffrent aussi de l'engouement pour la viscose. Cette fibre textile, parfois présentée comme une alternative au polyester, est réalisée à partir de pulpes de bois.
Pauline Glaise du service environnement de la rédaction. Enfin, le prix Nobel de physique revient cette année à deux chercheurs, deux pionniers de l'intelligence artificielle, l'américain John Hopfield et le britanno-canadien Geoffrey Hinton. Tous deux sont récompensés pour leurs travaux sur les réseaux de neurones artificiels et sur l'apprentissage automatique utilisé dans dans le développement de l'intelligence artificielle. Voilà, prochain journal, 18h, dans une cinquantaine de minutes, le journal en français facile d'Adrien Delgrange. Mais tout de suite, vous m'en direz des nouvelles. Jean-François Cadet, bonjour.
Bonjour et merci, c'était le journal de Gilles Moreau.